Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. Aujourd'hui, on se penche sur une question que pas mal d'investisseurs se posent. Est-ce qu'il faut regarder au-delà de nos frontières pour l'immobilier ?
Oui, c'est vrai que le marché français, bon, il montre certains signes, disons, de fatigue, non ? Avec des rendements moyens annoncés autour de 3,5% brut.
Et une fiscalité qui est souvent perçue comme assez lourde, effectivement. Ça peut pousser à regarder ailleurs. Alors, pour y voir plus clair, on s'est appuyé sur un guide vraiment très complet sur l'investissement immobilier à l'international.
Une sorte de cartographie des opportunités et aussi des risques, il faut le dire.
Exactement. Notre objectif aujourd'hui, essayer de comprendre le potentiel réel de ces placements hors de France. On va comparer les rendements, bien sûr, évaluer les risques.
Très important, les risques.
Décortiquer la fiscalité, qui est souvent un casse-tête, et puis évidemment le financement. Comment on fait ? L'idée, c'est d'identifier les destinations qui pourraient être intéressantes pour un investisseur français, là, maintenant, en 2024-2025. On part de ce contraste, 3,5% brut en France.
En moyenne, oui.
Face à des chiffres qui peuvent parfois dépasser 8% à l'étranger. Et avec parfois des petits plus fiscaux.
Des avantages, oui.
Bon, alors c'est parti pour cette analyse. Alors, pour bien saisir pourquoi on regarde ailleurs, peut-être un petit mot rapide sur la situation ici, en France. Les prix, bon, ça reste élevé. Paris, on est toujours près des 10 500 euros le mètre carré.
Ah oui, ça ne baisse pas vraiment.
Non, mais au-delà du prix d'achat, c'est le rendement net qui compte pour l'investisseur, ce qui reste après impôts et charges. Et là, on tombe souvent entre 2,5% et 4%, c'est ça.
C'est à peu près ça, oui. Et il y a cette fameuse fiscalité française assez complexe avec l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux, 17,2%.
Oui, les 17,2%, ça pique un peu quand même.
Ça pèse, oui, ça pèse lourd. Et c'est là justement que la comparaison avec l'international devient intéressante. Quand on parle de rendement net, donc ce qui reste vraiment avant l'impôt français, eh ben, les écarts peuvent être assez importants.
Ah oui, quel genre d'écart ?
Notre guide donne quelques exemples assez parlants. On évoque du 5,9% net estimé en Bulgarie.
D'accord.
6,8% en Floride, potentiellement 7% en Géorgie, voire même plus de 10% dans certaines zones spécifiques comme Batoumi.
Plus de 10% net ?
Oui, potentiellement. Et c'est vraiment la fiscalité locale qui fait cette différence. Le guide suggère que ça peut créer un écart allant jusqu'à 30% sur le rendement net final.
30% d'écart juste à cause de la fiscalité locale. C'est énorme.
C'est considérable. Pour un même rendement brut, le pays choisi change complètement ce qui reste dans la poche.
C'est un point essentiel. D'ailleurs, c'est intéressant, la France attire quand même des acheteurs étrangers. Près de 6%, c'est ça. Environ 180 000 transactions par an.
Oui, c'est pas négligeable. Surtout les Britanniques, les Belges, les Allemands.
Ça montre que la France garde une certaine attractivité. Peut-être le côté pierre-refuge. Mais ça explique aussi pourquoi les Français, eux, cherchent peut-être plus le rendement pur ailleurs.
Tout à fait. Et puis, il y a le contexte macroéconomique de 2025 qui vient complexifier un peu les choses. Les taux d'intérêt en France, bon, ils ont remonté, on est vers 3,8% en moyenne.
Oui.
Mais ça reste plus bas que par exemple aux États-Unis où on est plutôt entre 5,5% et 6%.
Donc a priori, c'est mieux d'emprunter en France.
Pour un achat en France, oui. Mais pour acheter à l'étranger avec un prêt français, ah, là c'est une autre histoire. On va y venir.
D'accord, on va voir ça. Alors justement, allons voir concrètement quelques destinations qui ressortent du guide. On commence par un voisin, un classique, de la stabilité, la Suisse.
La Suisse, oui. Référence pour la sécurité juridique, économique, stable.
Mais alors, le prix. Zurich, plus de 17 000 euros le mètre carré.
Ah oui, là on est dans le très haut de gamme. C'est le prix de la tranquillité.
Et la fiscalité, ça varie beaucoup d'un canton à l'autre apparemment.
Énormément. Ça peut aller de 12% à Genève jusqu'à près de 33% dans le Valais. C'est très variable. Et puis, il y a surtout la grosse contrainte pour les non-résidents, la fameuse lex color.
La lex color, ça limite beaucoup l'accès, c'est ça ?
Ça limite drastiquement, oui. En gros, il y a un quota national, environ 1500 autorisations par an seulement, pour les résidences secondaires achetées par des étrangers, souvent dans des zones touristiques bien définies.
D'accord.
La surface est limitée. Autour de 250 mètres carrés. Et on ne peut pas revendre avant 5 ans. C'est très, très contraignant.
Donc, la Suisse, c'est vraiment pas pour chercher du rendement locatif facile.
Clairement pas. C'est pour un profil qui cherche avant tout la préservation du capital, la sécurité maximale. C'est un placement très patrimonial, pas un investissement de rendement pur.
Très clair. Bon, on change complètement de continent et d'ambiance, les États-Unis. Le guide zoom sur la Floride et le Texas. La Floride, ça fait rêver, non ? Rendement brut annoncé 7 à 10%.
Oui, les chiffres bruts sont attractifs. Et surtout, le gros avantage fiscal. Pas d'impôt sur le revenu au niveau de l'État de Floride.
Ah oui, ça c'est intéressant. Mais le ticket d'entrée, hein, 405 000 $ le prix médian, ça fait 380 000 euros environ. C'est déjà un budget.
C'est un budget conséquent, oui. Mais le potentiel locatif, notamment saisonnier, semble important. Le guide donne l'exemple d'une villa à Orlando, achetée 400 000 $, qui pourrait rapporter entre 28 000 et 40 000 dollars par an.
Pas mal. Et la démographie est bonne là-bas ?
Très dynamique, oui. Plus 2,3% de croissance par an. Ça soutient le marché locatif et les prix.
Et le Texas, alors ? C'est présenté comme plus abordable, c'est ça ?
Oui, en général, les prix au Texas sont plus accessibles qu'en Floride. C'est un marché qui a connu une croissance très forte, d'après la source, plus de 20% en 2024. L'économie est très dynamique, diversifiée.
D'accord. Mais il y a un inconvénient, non ? Les taxes ?
Exactement. Les fameuses « property taxes », les impôts fonciers locaux, elles peuvent être assez élevées au Texas, autour de 1,8% de la valeur du bien chaque année.
Ah oui, 1,8% par an, ça pèse dans le calcul de rentabilité nette.
C'est un coût récurrent non négligeable, à bien intégrer, oui.
Donc ce dynamisme américain, c'est attractif pour les rendements, mais il faut bien regarder.
Il faut bien regarder les détails. Le coût d'entrée en Floride, les taxes au Texas. Et puis, il y a ce facteur dont on parlait, le taux de change.
Oui, le dollar.
Le dollar s'est apprécié de 15% face à l'euro en 2024, d'après le guide. C'est une super nouvelle pour les loyers perçus en dollars. Une fois qu'on les convertit en euros, ils valent plus.
Oui, ça booste le rendement facial.
Voilà. Mais attention, ça veut aussi dire que l'achat initial coûte 15% plus cher en euros qu'il y a un an. C'est vraiment un facteur à double tranchant, ce change. On le retrouve à l'achat, pendant la détention avec les loyers et potentiellement à la revente.
D'accord. Très important ce point sur la devise. Mais si on cherche justement des options peut-être moins chères, plus proches, en Europe peut-être, pour limiter ce risque de change, le guide nous emmène où ? Ah, la Bulgarie. Les chiffres ont l'air étonnants.
Oui, la Bulgarie ressort vraiment comme une option très attractive sur le papier, surtout pour des budgets plus contenus qui cherchent du rendement.
On parle de quel chiffre ?
Le guide mentionne des rendements autour de 5% net à Sofia, la capitale. Et ça peut grimper à 7%, 10%, voire plus dans des stations de ski comme Bansko.
7 à 10% net à Bansko et les prix ?
Alors, là, c'est là que c'est spectaculaire. Environ 2500 euros le mètre carré à Sofia et à peine 1000 euros le mètre carré à Bansko.
1000 euros, c'est 7 fois moins cher que Paris, c'est ça ?
C'est à peu près ça, oui. L'ordre de grandeur est là, c'est une fraction du prix.
Incroyable, mais est-ce que c'est sûr, le cadre juridique, tout ça ?
C'est le point crucial. La Bulgarie est membre de l'Union européenne depuis 2007. Ça apporte quand même un cadre juridique harmonisé, une certaine sécurité pour un investisseur européen.
Oui, c'est rassurant.
Et en plus, la fiscalité est très simple. Une flat tax de 10% sur les revenus fonciers. C'est clair, net et plutôt bas.
10% flat tax, c'est très attractif. Et le marché est dynamique ?
Apparemment, oui. Le BID parle d'une hausse des prix de 16,5% en 2024 et d'un bon volume de transactions, presque 25 000 au troisième trimestre 2024. Donc, la Bulgarie, ça coche pas mal de cases, prix accessible, potentiel de rendement élevé et la sécurité du cadre UE. Un bon compromis pour sortir de la zone euro sans aller trop loin.
D'accord, intéressant. Et si on va encore un peu plus à l'est, le guide parle de la Géorgie, avec une approche fiscale qui semble très particulière.
Oui, on peut dire ça. Très agressive même. La Géorgie mise à fond sur une fiscalité ultra attractive pour attirer les investisseurs étrangers.
C'est-à-dire ?
Plusieurs points forts selon le guide. Zéro impôt foncier si le bien n'est pas loué. La possibilité d'avoir une résidence fiscale à 0% sur les revenus de source étrangère. Un titre de résidence possible dès 100 000 $ d'investissement immobilier.
0% d'impôt et résidence facile ?
C'est ce qui est mis en avant, oui. Et il y a aussi le fait que les banques là-bas ne sont pas dans le système d'échange automatique d'informations bancaires, le CRS. Ça attire ceux qui cherchent la confidentialité. Et le processus d'achat serait très simple, très peu cher, 80 $ de frais.
Waouh ! Des rendements potentiels de plus de 10% net, une fiscalité quasi nulle. Où est le piège, là ? Où est le loup, comme on dit ?
Le loup, ou disons les points de vigilance, c'est que la Géorgie n'est pas dans l'Union européenne. Donc l'environnement juridique, politique, est potentiellement moins stable ou moins prévisible sur le long terme que dans l'UE.
D'accord, le risque perçu est plus élevé.
Exactement. L'attractivité repose énormément sur cette fiscalité très très avantageuse. Mais est-ce que ça durera ? Ça pourrait changer. C'est donc une destination à très haut potentiel, oui, mais pour des investisseurs qui sont conscients de ces risques spécifiques et qui sont peut-être aussi intéressés par l'aspect résidence fiscale.
Très clair, merci. Avant de passer au financement, qui s'annonce compliqué, peut-être un mot rapide sur les destinations méditerranéennes. Ça attire souvent les Français. Le guide en parle un peu, non ?
Oui, il les survole. Il mentionne la Grèce, par exemple, potentiel de rattrapage après la crise. Il y a le programme Golden Visa aussi, résidence contre un investissement d'au moins 250 000 euros.
Et le tourisme qui est fort là-bas ? Les prix sont comment ?
À Athènes, ça reste modéré, autour de 2 120 euros mètre carré, d'après le guide.
D'accord. Chypre Nord est aussi mentionné, avec une fiscalité douce et des prix qui ont flambé.
C'est ça. Pas de droit de succession, des prix qui auraient pris plus 67% récemment, tout en restant trois fois moins cher que Chypre Sud, autour de 3 200 euros au mètre carré.
Mais là, il y a un contexte géopolitique un peu tendu, non ?
Oui, tout à fait. Il faut être très, très prudent. Chypre Nord n'est reconnu que par la Turquie. Ça implique des risques juridiques et politiques importants, à ne pas négliger.
Et pour finir ce petit tour, le Maroc. Proche géographiquement, culturellement.
Le Maroc, oui. Proximité, des rendements corrects, estimés entre 6 et 8% à Marrakech, et des avantages fiscaux ciblés. 3 ans sans impôt sur le revenu pour les locations neuves, 5 ans sans taxes urbaines, pas de droit de succession pour les étrangers sous certaines conditions.
Donc, intéressant aussi, mais toujours avec cette vigilance hors UE.
Stabilité économique, politique, comme pour toute destination hors UE.
Parfait. Merci pour ce panorama très complet. On voit qu'il y a du choix, des profils très différents. Mais alors, la question qui fâche, comment on finance tout ça ? Parce que acheter à l'étranger avec un crédit français, ça semble être le parcours du combattant.
C'est souvent là que ça coince, oui. C'est le point le plus délicat. Le problème de fond, c'est que les banques françaises, elles ne peuvent pas, ou en tout cas elles ne veulent pas, prendre une hypothèque sur un bien qui est à l'étranger.
Pourquoi ça ?
Parce qu'en cas de problème, si l'emprunteur ne rembourse plus, la banque aurait énormément de mal à saisir et à vendre le bien à l'étranger pour se récupérer. Les procédures juridiques sont trop complexes, trop différentes d'un pays à l'autre.
D'accord. Donc, comme elles ne peuvent pas prendre le bien étranger en garantie, elles demandent autre chose.
Exactement. Elles exigent quasiment toujours une garantie solide, mais située en France.
Et ça veut dire quoi concrètement pour l'emprunteur ? Des conditions plus difficiles ?
Beaucoup plus difficiles, oui. D'abord, l'apport personnel demandé sera bien plus élevé, souvent 30% voire 50% du prix d'achat.
Ah oui ? Contre 10% parfois en France ?
Voilà. Ensuite, les taux d'intérêt. Ils seront plus élevés que pour un prêt immobilier classique en France. On parle d'une majoration de 1 à 2 points en général.
Ah, 2 points de plus ? Ça change tout sur le coût total.
Absolument. La durée du prêt sera aussi plus courte. Oubliez les prêts sur 25 ans, on sera plutôt sur 15, maximum 20 ans.
D'accord. Apport élevé, taux élevé, durée courte.
Et cette fameuse garantie en France, soit une hypothèque sur un autre bien immobilier que vous possédez déjà en France.
Soit un nantissement. C'est quoi exactement le nantissement ?
Le nantissement, c'est quand on met en garantie un placement financier, par exemple un contrat d'assurance vie ou un portefeuille de titres, comme un POA ou un compte titres. La banque bloque une partie de la valeur de ce placement pour se garantir.
L'avantage, c'est qu'on ne vend pas ces placements.
Oui, ça préserve les placements qui continuent de travailler. Mais souvent, le montant qu'on peut emprunter et les conditions de taux sont moins intéressants qu'avec une garantie hypothécaire sur un bien immobilier.
Donc, au final, toutes ces contraintes, ça réduit quand même drastiquement l'intérêt du crédit. L'effet de levier, qui est un peu le moteur de l'investissement immobilier, non ?
C'est tout le paradoxe, oui. On va chercher plus de rendement à l'étranger, mais l'accès au crédit est plus dur, plus cher, ce qui vient grignoter la performance si on finance par emprunt.
Mais il y a quand même des solutions, des alternatives ?
Oui, heureusement. La première, si on a la chance d'avoir déjà un bien immobilier en France sans crédit ou avec peu de crédit dessus, c'est le prêt de trésorerie hypothécaire.
C'est-à-dire ?
On prend une hypothèque sur ce bien français pour obtenir des liquidités, une somme d'argent qu'on peut ensuite utiliser librement, par exemple, pour acheter à l'étranger. la banque prête en général 50 à 70% de la valeur du bien mis en garantie.
Et les taux sont ceux d'un prêt IMO classique ?
Oui, c'est l'avantage. On bénéficie des taux immobiliers français qui sont plus bas que les taux de crédit à la consommation, par exemple. Et la procédure est connue des banques françaises.
D'accord. Et si on n'a pas de bien à hypothéquer en France ?
Alors, l'autre piste, c'est le financement local. Essayez d'obtenir un prêt directement dans le pays où on achète.
C'est possible pour un non-résident ?
C'est possible dans certains pays, oui. Aux États-Unis, par exemple, certaines banques prêtent aux étrangers, mais il faut souvent quand même un apport conséquent, 25-30% minimum. Les taux peuvent être intéressants.
Mais là, on rembourse en devise locale ?
Exactement. Et c'est là qu'intervient à nouveau le risque de change, mais cette fois sur la dette. Si l'euro baisse par rapport à dollar, par exemple, vos mensualités, une fois converties en euros, vont augmenter. C'est un risque supplémentaire.
Décidément, ce risque de change...
Il est partout dès qu'on sort de la zone euro. C'est pour ça que la solution la plus simple, si on a les moyens, ça reste l'achat sur fonds propres.
Payer cash, quoi.
Voilà. Pas de dossier de crédit, pas de garantie, pas de risque de change sur la dette. Mais évidemment, on se prive complètement de l'effet de levier. C'est une option qui est surtout réaliste pour les destinations où le ticket d'entrée est bas, comme la Bulgarie ou la Géorgie dont on parlait.
D'accord. Et pour gérer ce risque de change, justement, qui semble inévitable, qu'est-ce qu'on peut faire ? On subit.
Subir, c'est une option, mais on peut essayer de le gérer. Il n'y a pas de solution miracle et gratuite. Hein. Comme on l'a dit, financer en devise locale, ça aligne la dette et l'actif. Ça couvre une partie du risque.
Mais ce n'est pas toujours possible ou souhaitable.
Non. Il existe des produits de couverture de change proposés par les banques, mais c'est souvent assez complexe, ça a un coût, et c'est plutôt pour les gros montants ou les professionnels.
D'accord. Donc pour l'investisseur particulier...
Une autre approche, c'est la diversification. Investir dans plusieurs pays avec des devises différentes pour lisser les fluctuations. Ou alors simplement considérer que ce risque fait partie du jeu de l'investissement international et l'accepter sur le long terme.
En espérant que ça s'équilibre.
Voilà. Et ne pas oublier non plus les frais de transaction. Le change lui-même, via une banque traditionnelle, ça coûte souvent 2 à 3%. Les virements internationaux aussi. Le guide suggère d'ailleurs d'utiliser des services en ligne comme Wise ou Revolut, qui sont souvent bien moins chers pour ces opérations de change et de transfert.
Bon point. Ok, on a vu les pays, les rendements, les risques, le financement. C'est beaucoup d'infos. Comment on met tout ça en musique ? Comment choisir sa stratégie optimisée ?
Alors, le guide propose une approche intéressante. Faire correspondre le profil de l'investisseur avec la destination.
Par exemple ?
Exemple, pour un profil qu'on pourrait qualifier de prudent, qui a un budget, disons, entre 100 000 et 200 000 euros, ce profil pourrait regarder du côté de la Bulgarie ou de la Grèce.
Pourquoi ces deux-là ?
Pour la sécurité relative du cadre de l'Union européenne et surtout pour l'accessibilité des prix qui correspond au budget.
D'accord. Et pour quelqu'un de plus dynamique ?
Avec un budget plus élevé, 300 000 à 500 000 euros.
Là, on pourrait envisager la Floride ou le Texas. Le potentiel de rendement est plus élevé, mais il faut être prêt à gérer plus de complexité. Administrative, fiscale, le risque de change plus présent, ça demande un budget plus important et plus d'implication.
Et pour un investisseur, disons, averti, avec 500 000 euros ou plus, cet investisseur pourrait explorer des options plus spécifiques. La Suisse, si l'objectif numéro un est la stabilité absolue du capital, malgré les contraintes d'accès, ou alors la Géorgie, pour son ingénierie fiscale très audacieuse, mais en étant bien conscient des risques qui sont plus élevés hors UE. Ce sont des marchés qui demandent une analyse vraiment fine.
Ok, ça donne une bonne grille de lecture. Une fois qu'on a choisi sa cible, j'imagine que l'optimisation fiscale est absolument clé. Surtout pour éviter la double imposition.
C'est fondamental, oui. Heureusement, la France a signé des conventions fiscales avec beaucoup de pays pour éviter ça. Mais le mécanisme n'est pas toujours le même.
Comment ça fonctionne en général ?
Parfois, les revenus étrangers sont exonérés d'impôts en France, mais ils sont quand même pris en compte pour calculer le taux d'imposition qui s'appliquera à vos autres revenus français. C'est la méthode du taux effectif.
D'accord.
D'autres fois, l'impôt que vous avez déjà payé à l'étranger vous donne droit à un crédit d'impôt en France. Ce crédit vient réduire l'impôt français que vous devriez payer sur ces mêmes revenus étrangers.
Il faut vraiment regarder la convention précise avec le pays concerné.
Absolument. Et surtout, point très important, il faut tout déclarer en France. Pas seulement les revenus. Il faut déclarer les comptes bancaires ouverts à l'étranger, mais aussi le fait de détenir le bien immobilier lui-même.
Même s'il ne rapporte rien.
Même s'il ne rapportait rien ou si on ne l'a pas loué, il y a un formulaire spécifique pour ça, le 3916, à joindre à sa déclaration de revenus chaque année. C'est une obligation légale.
Le formulaire 3916, à ne pas oublier. Et si on a un patrimoine immobilier total, France plus étranger, qui dépasse 1,3 million d'euros, il faut penser à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière.
Tout à fait. Les biens immobiliers détenus à l'étranger par un résident fiscal français entrent dans le calcul de l'IFI exactement comme les biens français, si la valeur nette totale du patrimoine immobilier dépasse ce seuil de 1,3 million.
Donc il faut bien évaluer ces biens à l'étranger chaque année et les inclure dans la déclaration IFI.
Exactement. Et il faut aussi anticiper la question des droits de succession. Les règles peuvent être très différentes d'un pays à l'autre et s'articuler de manière complexe avec la loi française.
Vu la complexité, se faire aider par un fiscaliste spécialisé dans l'international, c'est peut-être pas un luxe.
C'est même fortement recommandé avant de se lancer, oui, pour éviter les erreurs qui peuvent coûter cher.
Et pour les autres risques dont on a parlé, politiques, économiques, comment on gère ça?
La règle d'or, c'est la diversification. Notre source conseille de ne pas mettre plus de 30% de son patrimoine total dans un seul pays étranger. Ça limite l'exposition à un risque spécifique.
Logique.
Privilégier des démocraties stables, idéalement dans l'UE ou des pays très sûrs. Ça réduit aussi l'incertitude politique. Et pour le risque de change hors zone euro, on l'a dit, soit on essaie de couvrir, soit on accepte le risque en connaissance de cause.
Dernière étape logique du cycle, la sortie, la revente. Il faut y penser dès le début, j'imagine?
Ah oui, absolument. C'est crucial d'anticiper. Comment sont taxées les plus-values immobilières dans le pays où on achète? Quel est le taux? Est-ce qu'il y a une exonération après une certaine durée de détention?
Et est-ce que le marché sera liquide? Est-ce qu'on pourra vendre facilement?
Exactement. Quelle est la liquidité du marché local? Comment on rapatrie les fonds une fois la vente réalisée? Et bien sûr, quelles seront les conséquences fiscales en France lors de cette revente? La plus-value sera aussi imposée en France, après déduction de l'impôt éventuellement payé à l'étranger. Anticiper tout ça évite les mauvaises surprises au moment de sortir. Donc, si on essaye de résumer, l'investissement immobilier à l'étranger, d'après cette analyse, ça peut offrir un potentiel de rendement net moyen sur le long terme qui serait entre 5,5% et 7%.
Ce qui est nettement plus que les 2,5-4% net qu'on a en France.
Oui, c'est potentiellement 2 à 3 fois plus. Mais, car il y a un mais, ce potentiel a un prix. C'est plus complexe, il y a des risques spécifiques qu'il faut gérer activement et ça demande une vraie expertise ou, au minimum, un très bon accompagnement.
Donc, le message clé qu'on peut retenir de cette exploration, c'est un mélange d'opportunités et de prudence, finalement. Oui, l'international peut vraiment être un levier pour booster les rendements, pour diversifier son patrimoine. Mais attention.
Attention, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
Non, voilà. Le financement, la fiscalité, la gestion à distance, si on loue, les risques politiques ou de change. C'est un investissement qui demande du temps, de l'énergie, une bonne préparation. C'est pas du tout un placement passif où on achète et on oublie.
Tout à fait. Et peut-être, pour ouvrir une dernière piste de réflexion, un peu au-delà des chiffres, comment est-ce que le fait de posséder un bien ailleurs, peut-être d'y aller de temps en temps, de gérer des choses à distance, comment est-ce que cette expérience pourrait transformer un peu la vision du monde de l'investisseur?
Intéressant.
Sa compréhension des autres cultures, des économies différentes, ça peut même créer des liens personnels auxquels on ne s'attendait pas. C'est une dimension plus, disons, subjective, mais qui fait aussi partie de l'aventure de l'investissement international, je trouve.
C'est une très belle manière de conclure, effectivement. Ça ouvre des perspectives au-delà du purement financier. Voilà qui termine notre analyse détaillée des opportunités immobilières hors de nos frontières, basée sur le guide très riche qu'on a pu consulter. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion.